Bible de l'humanité. 1. L'Inde, chapitre 5. Les profondes libertés de l'Inde. Ce qui fait du Ramayana une merveille, malgré l'encombrement fâcheux des surcharges infinies, c'est son âme intérieure, équilibrée de deux âmes, sa douce contradiction, le charme du libre esprit entrevu dans le clair-obscur. C'est la liberté timide, adorablement voilée dans la grâce. Elle se montre, elle se cache, elle demande pardon d'exister. Sous le règne brahmanique de la puissante loi de Manu, quand la caste dominante a saisi la vie entière dans un détail infini, quand elle fait sentir à la terre ce que pèse 30 000 dieux, la nature existe pourtant. Elle proteste à voix basse, dans l'amour, dans la pitié, dans la tendresse illimitée pour les faibles et pour les humbles, elle se laisse voir encore, entrevoir, non pas de face, ni par des coups de lumière, mais par d'ineffables lueurs. C'est une lampe délicieuse qu'on soupçonne sous l'albâtre. C'est l'attrait divin, pudique, de la perle au fond des mers. Il n'en fut pas toujours ainsi. La vive opposition des castes avait autrement éclaté à leur naissance dans l'Antiquité reculée. Témoin le chant singulier, la première satire du monde, où l'on parodie hardiment l'enseignement des Brahmes. Témoin la tradition d'après laquelle l'ancien Indra, le vainqueur et le moqueur, le dieu joyeux de la nature qui fait la pluie et le beau temps, surprend, raille outrageusement la chasteté aventurée des saintes anachorètes. Témoin surtout la légende du Raja Vishvamitra, fière histoire qui d'âge en âge a poursuivi, menacé l'autorité brahmanique. Ce roi illustre par les hymnes qu'on lit de lui dans les Védas, illustre par ses 100 fils, par l'adoption généreuse qu'il fit des tribus inférieures, eut la fantaisie d'être Brahme. Refusé, il se plongea pendant 1 000 000 d'années dans de telles macérations, y acquit de tels mérites, une si formidable puissance qu'il eut supprimé le monde, terre et ciel, hommes et dieux, d'un simple froncement de sourcils. Les dieux épouvantés descendent à son ermitage, l'entourent, le prient, obtiennent de lui que le monde existe encore. Notez que ce saint terrible ne meurt pas. Il vit toujours dangereux. Il était au temps des Védas. Quelques milliers d'années après, il revient dans le Ramayana. Il est le fond le plus profond, intime de l'âme indienne. Elle fit, elle peut défaire, elle créa, et elle peut créer aussi le néant. Rappeler au monde des dieux qu'il fut sa production et le faire évanouir au froncement de son sourcil. Elle le peut et ne le veut pas. Libre au fond par ce grand secret, elle a d'autant plus pour ses dieux de tendres ménagements. Elle aurait horreur d'y toucher. Elle les aime, surtout parce que, à travers leur nuageuse et sublime existence, elle s'entrevoit elle-même. C'est le privilège énorme et la royauté unique de cette race indo-grecque de voir où les autres races ne voient rien, de pénétrer des mondes d'idées et de dogmes, des épaisseurs incroyables de dieux entassés l'un sur l'autre. Et tout cela sans effort, sans critique, sans malignité, par le seul fait d'une optique merveilleuse, par la seule force d'un regard, non pas ironique, mais terriblement lucide, comme à travers 100 cristaux qu'on aurait superposés. Cette transparence est la grâce singulière du Ramayana. Dès le début, il se prosterne et ils restent agenouillés dans le respect du brahmanisme, mais voient parfaitement à travers. Il entasse dans ses premiers chants tout ce qu'on peut imaginer de vénération, de tendresse, et très évidemment sincère, pour la haute caste sacrée. Mais en même temps, il nous expose une révélation nouvelle, le guerrier Dieu, Dieu incarné dans la caste non brahmanique, l'idéal de la sainteté, désormais dans un kshatriya. Et ce qui n'est pas moins fort, c'est ce qu'il dit, et que j'ai déjà cité, que le Ramayana s'adresse non pas au brahmane seul, non pas même au guerrier seul, mais aux marchands, Vaishya, caste infiniment nombreuse, qui, d'après l'étymologie, signifiait d'abord le peuple. Il n'ose parler des Sudras, mais ce qu'il ajoute est plus fort que s'il en avait parlé. Il les omet, descend plus bas. Si un esclave entend chanter ce poème, il est anobli. Or, l'esclave est bien au-dessous du Sudra, homme de la quatrième caste. Il est hors de toute caste, hors du monde indien. Si ce pauvre homme, le dernier des êtres, peut être anobli, participer à la bénédiction du Ramayana, personne n'est excepté de la miséricorde divine. Tous sont sauvés. C'est le salut étendu sans exception. Après l'ancien Rama des Brahmes, de la hache, de la loi sévère, arrive le Rama des guerriers, clément et miséricordieux, l'universel sauveur, le Rama de la grâce. Le fond du poème est très simple. Le vieux roi Dasaratha a obtenu du ciel ce fils admirable, accompli, adoré. Il est fatigué. Il va le sacrer, lui céder la couronne. Mais une femme favorite, une belle-mère, surprend au vieillard la promesse de lui accorder tout don qu'elle demandera. Elle demande l'exil de Rama et le couronnement de son propre fils. Celui-ci refuse. Rama veut faire honneur à la parole de son père. Il insiste, il s'inflige l'exil. Un jeune frère l'accompagne, et sa jeune épouse, Sita. Ils partent pour les solitudes, occasion admirable pour le poète. L'amour, l'amitié au désert, un sublime et délicieux ermitage dans ce paradis indien. Depuis que j'ai vu les merveilles de cette magnifique montagne, le saint mont Chirakuta, je n'ai souci de mon exil, de ma couronne perdue, de cette vie solitaire. Que je coule ici mes années avec toi, ma chère Sita, avec mon jeune frère Lakshmana, je n'en ai aucun chagrin. Vois-tu ces crêtes sublimes qui montent au ciel étincelantes? Les unes en masses d'argent, telles ou de pourpre ou d'opale, d'autres d'un vert d'émeraude. On dirait de celles-là un diamant plein de soleil. Les grandes forêts sont peuplées d'un monde de mille oiseaux, de singes et de léopards. Cèdres, santals, ébéniers, jujubiers et bananiers font des ombrages embaumés de fleurs, opulents de fruits. Partout des sources, des ruisseaux, des cascades gazouillantes. La montagne tout entière semble un gigantesque éléphant dans l'ivresse de l'amour. Fille au candide sourire, vois-tu là-bas, mon enfant, cette suave mandakini, la rivière aux limpides ondes, avec ses grues et ses cygnes, sous son voile de lotus rouge, de nymphéas bleus, ombragée de ses enfants, arbres à fleurs, arbres à fruits, parsemés d'admirables îles. Que j'aime à voir dans le bras solitaire de la rivière ce petit troupeau de gazelles qui viennent à la file si désaltérés. Vois au pied de la montagne ces arbres qui, sous le vent, plie modestement en laissant tomber une averse de fleurs. Les unes parfument le sol et les autres, çà et là, vont naviguer sur les eaux. Vois l'oie rouge monter au ciel, heureuse, et d'un chant fortuné offrir son salut au matin. C'est l'heure où les pieux richis se plongent dans l'onde sacrée. Viens donc aussi avec moi, c'est la plus sainte des rivières. Dis-moi, le fleuve et la montagne ne valent-ils pas, ma chère, l'empire, les riches cités, tout ce que nous avons perdu? Toi et mon bien-aimé frère, vous êtes ma félicité. Ce que Rama dit ici de ce grand paysage indien, c'est l'image même du poème. Dans sa richesse incomparable, il est égal à l'Inde même qui l'enveloppe tout entière et brode magnifiquement. Le procédé semble celui de l'art charmant de la contrée, l'art souverain du Cachemire. La persévérante industrie du tissu continué où les âges successifs ont mis leur labeur, leur amour. D'abord, c'est un châle exquis, sacré, écharpe de Vishnu où la merveilleuse naissance de Rama, sa cité, son hymen, sa belle Sita ourdissent le fond du poème. Autour de ce fond se tisse comme un tapis délicieux, toute la nature, montagnes, forêts, rivières, tous les paysages, toutes les saisons de l'Inde, tous les bons amis de l'homme, animaux et végétaux. Ce tapis, tout grand qu'il est, s'agrandit, comprend les arts, les métiers, les palais, les villes, kiosques, bazars, sérails. C'est alors comme une tente, un merveilleux pavillon où le monde entier tient à l'aise. Pendue aux forêts immenses, au pied de l'Himalaya, elle ombrage l'Inde entière, de l'Indus jusqu'au Bengale, de Bénarès à Ceylan. Mais sans lui cacher le ciel, elle est son ciel elle-même. Arrêtons-nous. N'oublions pas que ce livre n'est point une histoire littéraire, qu'il poursuit uniquement les grands résultats moraux. En Rama se réunit le double idéal des deux castes. D'une part, il atteint l'apogée de la vertu brahmanique, mais d'autre part, il y ajoute le haut dévouement du guerrier qui hasarde pour les autres et lui-même, et quelquefois ce qu'il aime plus que lui. Pour la défense des faibles, des ermites solitaires que troublent les mauvais esprits, il compromet plus que sa vie, son amour, sa charmante femme, fidèle et dévouée, sa Sita. L'homme complet, ce guerrier Brahme, est donc encore plus près de Dieu que ne serait le simple Brahme qui prie, ne se sacrifie pas. Rama suit exactement l'idéal du kshatriya, ô idéal chevaleresque, vaincre et pardonner, attendre que l'ennemi blessé se relève, donner, jamais recevoir. On croirait lire le Shahnameh ou nos poèmes celto-germaniques. Ce guerrier, si pacifique, est exactement contraire au caractère irritable que le poète donne à ses brames, même au plus saint, qui, pour des causes légères, pour des torts involontaires, lance le terrible anathème dont on reste lié, enchanté, parfois transformé en monstre. Sur le dernier point, ne rien recevoir, il insiste avec douceur, comme toujours, mais une douceur malicieuse, faisant par Rama la satire indirecte des Brahmes qui toujours recevaient, souvent exigeaient. On prévoit d'ici le Brahme mendiant, gourmand, bouffon de cour, qui sera plus tard dans le drame indien, voire Sakuntala. Le Ramayana est fait évidemment pour être chantés à la table des rajas, dans leur cour où les brahmes avaient une position secondaire. De là, des récits de combats innombrables, monstrueux d'exagération, qui en sont le plus grand défaut. Mais en revanche, on y trouve une généreuse grandeur, des explosions de franche et libre nature, héroïques imprudences où ne tomberait jamais un livre sacerdotal. Dans un transport maternel, la mère de Rama, indignée de son exil, dit au roi « Rappelez-vous, roi puissant, ce temps célèbre distique. Brahma un jour a prononcé « J'ai jeté dans ma balance d'un côté la vérité, de l'autre 1000 sacrifices. Mais la vérité l'emporta. » Sita de même, entraînée par sa douleur, son désir de suivre Rama, Sita lance cette parole qui renverse par la base l'édifice brahmanique. Un père, une mère ou un fils, et dans ce monde et dans l'autre, mange seul le fruit de ses œuvres. Un père n'est pas récompensé ni châtié pour son fils. Un fils ne l'est pas pour son père. Chacun d'eux, par ses actions, s'engendre le bien et le mal. Quelle est cette petite femme? Essayons de le deviner. Un des ancêtres de Rama, le grand roi Vishvamitra, auteur de maints hymnes sublimes, avec sa piété terrible, ne semble pas avoir fait grand cas de la barrière des castes. Des 100 fils qu'il eut, 50 étaient nés des Dasyas, des captives, des femmes jaunes qu'il n'avait pas dédaignées. C'est-à-dire que ce haut type du roi prêtre à cette époque embrassa d'un cœur immense toute caste et toute condition. Le Ramayana ne dit pas avec une netteté suffisante d'où vient l'épouse de Rama, cette délicieuse Sita. Tantôt elle est fille de roi, tantôt elle est née du sillon. C'est ce que dit le mot Sita. Rama n'aurait-il pas fait comme son fameux aïeul, en prenant une fille de la terre même, des anciennes tribus du pays, une métisse qu'un roi eût eue d'une captive. De cette douce race chinoise, si recherchée dans les sérails, et dont la grâce, l'œil oblique, fin, demi-clos, trouble les saints, les démons même, avec qui elle a peut-être un peu de parenté. Au-delà des castes humaines, reste une caste prodigieuse, bien humble, mais si nombreuse. Le pauvre monde animal a sauvé, a relevé. C'est le triomphe de l'Inde, de Rama et du Ramayana.